Et donc, ce matin, nous voulons se rappeler pourquoi Pâques. On l'a mentionné tantôt. Et j'aimerais commencer en soulignant justement pourquoi la croix est l'emblème de notre foi, en lisant ces deux passages que l'apôtre Pierre, cet apôtre qui était là lorsque Jésus a été frappé, cet apôtre qui a renié Jésus à un moment donné de sa vie, et il a eu honte. Un homme qui a vu les humiliations que Jésus a vécues. Ce Pierre qui finalement est devenu apôtre et qui n'a pas juste été apôtre d'un nom, mais qui après la résurrection de Jésus a prêché la parole de Dieu fidèlement, a écrit un épître. Et voici ce que l'apôtre Pierre a dit, qui sont les bases de notre message ce matin. En parlant de Jésus, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace. Pierre le savait. Pierre n'était pas trop loin. Il avait vu se faire traiter ainsi par les humains. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en est remis à son Père céleste. Lui qui lui-même a porté nos péchés dans son corps à la croix. Donc son corps qui portait nos péchés à nous à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions par la justice. Et donc c'est pour nous procurer la vie suite à ce pardon qu'il a fait cela. C'est parce que ses blessures, en citant Ésaïe, c'est par ses blessures que vous avez été guéri. Et pas d'une guérison extérieure, temporaire, pas guéri d'une maladie, mais guéri de la maladie humaine, le péché. Guéri de la guérison que Dieu parlait, parce qu'on peut vivre toutes sortes de guérisons sur terre, mais on va tous mourir un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de guérison qui va enlever la mort. Lui, il parlait de la guérison qui allait enlever la mort, la guérison de nos péchés. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Effectivement, on allait chacun de son côté, indépendamment de Dieu, cherchant à brouter de l'herbe un peu partout dans le monde, à goûter à toutes sortes de choses, à tourner en rond, pourtant continuellement insatisfait, à chercher autre chose. Et c'est lui qui est venu nous chercher dans cet égarement. Mais maintenant, vous êtes retournés. Donc, dans cet égarement, on était ramenés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Amen. Parole de l'apôtre Pierre, chapitre 2, versets 23-25. Voilà pourquoi la croix est l'emblème de notre foi. Cette croix précieuse qui n'est pas juste un simple symbole. Regardez les implications. Pierre va dire au chapitre suivant ceci, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert en parlant des souffrances que les croyants vivaient, à qui Pierre écrit pour les encourager, qui sont dans la région de Turquie et qui ont besoin d'encouragement. Bien, il dit, Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste. Il a souffert pour des injustes comme nous, afin de nous conduire, de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, lui qui est fils de Dieu, Dieu incarné en homme. Il a vécu une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Voilà ce qu'on célèbre. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur nos âmes perdues et égarées, et le pardon qui est possible pour chacun d'entre nous. La vraie guérison que Jésus voulait. Il y a plein de gens qui ont été guéris lorsque Jésus était sur terre. Et pourtant, combien ont été guéris de l'âme? Beaucoup ont été guéris et pourtant n'ont pas saisi qui était celui qui les a guéris. Et que Jésus voulait que montrer ces guérisons-là pour authentifier qui il était. Ce n'était pas la fin en soi de son ministère, les guérisons. C'était la guérison ici de l'âme, du pardon des péchés, de se battre contre la mort qu'amène le péché dans ce monde. Voilà pourquoi la croix est le symbole par excellence du christianisme. Que peut-être vous avez un petit symbole comme ça, dans votre maison, autour du cou, sur votre Bible. Vous savez, à travers les siècles, cet objet a été utilisé de toutes sortes de façons. À l'époque des croisades, ça représentait l'armée des croisés qui massacrait des gens au nom du christianisme. D'une façon souvent, et pour le moins, très honteuse, qui ne respectait pas la vie. Au nom du christianisme, on a dit beaucoup de choses à cette époque. Le pape Urbain, à l'époque, il y a 900 ans, dénigrait les musulmans, exagérait les histoires à leur sujet contre les chrétiens et permettait l'absolution que si on allait se battre là-bas pour la croix de Christ, nos péchés seraient tous absous. Et si tu mourais sur le champ de bataille, tu allais directement au ciel, les péchés te seraient pardonnés. Et qui disait ça? Pas Jésus. Un être humain, pour convaincre des gens d'aller tuer d'autres personnes sur le dos de la croix. Et pourtant, même sur le mal utilisé la croix, n'enlevons pas à ce symbole sa vérité, sa puissance, n'est-ce pas? Malgré son usage mal utilisé, la croix n'est pas politique, mais elle est spirituelle. Elle a apporté une délivrance bien réelle. Ce n'est pas un symbole pour une bataille militaire, mais bien le symbole du sacrifice de Jésus-Christ. Voici ce que Paul dit. Écoutez bien ceci. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, « Nous prêchons Christ crucifié. » Parce qu'évidemment, Christ seul, sans la crucifixion, perd son sens. C'est scandale pour les Juifs. Et on va voir pourquoi c'est un scandale pour les Juifs, la croix. C'est une honte. Folie pour les Grecs. Ben voyons donc, croire en quelqu'un qui a été crucifié, que juste croire fait que tes péchés sont pardonnés, c'est ridicule. Et on se moquait chez les Grecs, chez les Romains. Et tout comme aujourd'hui, on se moque aussi encore. Ben voyons donc, ce que Jésus aurait fait pardonnerait nos péchés, donnerait l'espérance de la vie éternelle. Folie pour les Grecs. Et pourtant, Paul dit, moi, je vais prêcher le scandale de la foi, de la croix, excusez-moi, dans Galates chapitre 5. Parce que la croix est au centre du message de l'Évangile. Maintenant, ce qui est particulier, c'est que la croix, c'est un objet de torture. Vous avez vu dernièrement des gens qui se promenaient avec une chaise électrique attachée autour du cou? Peut-être une guillotine autour du cou, hein, comme autour d'un pendentif, une belle petite guillotine là, à la place. Hein? Vous savez, en portant la croix autour du cou, on portait un objet de torture. C'est particulier, pensez-y. On se promènerait jamais en Amérique du Nord avec une chaise électrique autour du cou, où on penserait qu'on a des problèmes électriques à quelque part. Encore moins qu'une guillotine de l'époque médiévale. Pourtant, on porte une croix et c'était le supplice, vous savez, par excellence que les Romains ont trouvé pour dissuader leurs ennemis de leur faire la guerre, de dissuader les gens d'être rebelles à leur autorité, parce que c'était la manière d'étirer le supplice le plus longtemps possible, de dissuader quiconque de regimber contre les Romains. C'était la méthode qu'on avait trouvée pour mourir le plus lentement possible avec le plus grand supplice, dans la plus grande des hontes. Et après avoir vu quelqu'un, vous savez, ces gens qui lisaient ça, peut-être certains connaissaient des amis, des membres de la famille qui avaient été sur une croix près de la ville de Jérusalem ou dans une autre ville, qui avaient vu de leurs propres yeux des membres de leur famille souffrir jusqu'à la mort sur une croix. Pas juste Jésus. Et là, imaginez, on leur dit ici, la croix, symbole par excellence, l'emblème de notre foi. C'est spécial, si on comprend bien le contexte. Aujourd'hui, les gens portent une croix et en perdent le sens. Et pourtant, porter une croix à l'époque de Jésus aurait été impensable. Ça aurait été aussi fou que vous promeniez avec un pendentif et un bonhomme pendu, ou un pendentif avec un bonhomme sur une chaise électrique. On ne ferait pas ça aujourd'hui. À l'époque, on n'aurait pas porté une croix. Parce que quelqu'un t'aurait réprimandé. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est mort là-dessus. Enlève ça de ton cou. Ça aurait fait des batailles d'oser faire une telle chose. Ça aurait été de la folie. Autre époque, autre sens, et tout à coup, il y a des croix. Pensez-y comme il faut ce que ça veut dire. C'est parce que Jésus a été torturé sur une croix et a vécu le pire supplice humain que nous pouvons espérer par sa mort suivie de sa résurrection, le pardon des péchés. C'est cet objet de supplice, de torture que nous portons. C'est quelque chose. On ne peut pas prendre ça à la légère, c'est un symbole extrêmement criant. Pourquoi la croix? Bien, vous savez, Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il faisait plein de miracles et que ça dérangeait. Et vous savez, d'autres personnes avaient fait des miracles dans le passé. Moïse a fait de grands miracles. Les prophètes, les apôtres ont fait des miracles également. Ça ne faisait pas d'eux quelqu'un qu'on voulait nécessairement crucifier, n'est-ce pas? Mais Jésus était différent. Il a fait certains miracles que d'autres n'avaient jamais fait auparavant. Des miracles uniques, des résurrections. Oui, il y avait déjà eu des résurrections, mais pas dans le nombre que Jésus a fait. Et c'est ce que ceux qu'on connaît, qui sont mentionnés, il y avait certainement d'autres. Mais c'est pour l'identité de Jésus. Écoutez bien les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6. Je vous les lis. Jean chapitre 6, versets 40 à 42. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, Jésus dit. Je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il disait « Je suis le pain de vie. » Et pour qui se prend Jésus de se nommer le pain de vie? Il est fou. Qui est descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas Jésus? C'est pas Jésus, le fils de Joseph, on le connaît. C'est quoi cette affaire-là qui vient du ciel, qui est le pain du ciel, qui est la manne de Dieu? Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? On sait d'où ce que t'es né, Jésus. Les gens ne comprenaient pas les prétentions de Jésus. Et Jésus, devant Pilate, voici ce qui est dit devant Pilate, chapitre 19 de Jean. Pilate et ceux qui traînaient Jésus devant lui ont dit ceci. « Car moi, je ne trouve point de crime en lui, dit Pilate. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce que il se fait fils de Dieu. » Et ça, pour nous, c'est un blasphème. Ce qui choquait, c'était les prétentions de Christ, d'être le fils de Dieu incarné en homme, Dieu fait chair. Voilà ce qui choquait les Juifs. Voilà ce qui a fait qu'il était une menace pour les Juifs et la religion juive qui ne voyait pas le Messie venir de cette façon-là, qui ne saisissait pas les prophéties de l'Ancien Testament. Et même Jésus dira, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Mais il ne comprenait pas que ça serait sur une croix, comme un serpent avait été élevé dans le désert, dans le passé, dans l'ombre. Il dit, Jésus va être élevé aussi comme ça, sur un poteau de bois, sur une croix. Et ceux qui vont regarder vers lui pourront vivre le pardon. La guérison. Et pourtant, les Juifs ne saisissaient pas. La croix est d'une haute importance et on la retrouve partout dans le Nouveau Testament. Le mot croix apparaît 27 fois dans le Nouveau Testament, 23 fois pour la croix de Christ et 4 fois quand on parle, Jésus parlait de porter sa croix dans les évangiles. La majorité de ces allusions à la croix se trouvent justement dans les évangiles 16 fois. 10 fois, c'est Paul qui en parle. Dans les épîtres de Paul, et une seule fois en dehors, dans le livre, l'épître aux Hébreux. Et Paul dira ceci, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Donc, il y avait un papier qui était rédigé devant Dieu qui disait, « Joël Lapierre, il est condamné pour ses péchés, il est pécheur, il a manqué le standard de Dieu. » Il y avait un acte décrit. Il dit, « Lui, il a effacé cette ordonnance-là de la cour pénale. » Il l'a effacé. Qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix avec lui. Ce papier avec lui a été mis à la croix. Faut-il encore regarder vers la croix et y croire pour bénéficier de cet acte de pardon? Vous comprenez? Il y a bien des années, j'ai lu cette histoire, c'est arrivé pour de vrai il y a 200 ans. Un homme avait été gracié pour son meurtre. Différentes circonstances étaient arrivées. Et cet homme-là avait été gracié pour son meurtre qu'il avait fait. C'était il y a 200 ans. Et l'homme refusait d'être gracié par le président. Imaginez, vous êtes condamné à mort. L'homme a refusé d'être gracié par le président des États-Unis. Alors des gens se sont mis là-dessus, ils ont dit non, t'as pas le choix, t'as été pardonné. Et lui a dit non, ça a dû aller en cours. Et ils ont établi ceci en cours aux États-Unis il y a 200 ans, qu'un acte de pardon ne peut seulement être efficace si celui pour qui c'est offert l'accepte. Sinon, elle n'est pas efficace. Quelle belle analogie, n'est-ce pas? Sans foi qui approprie le pardon, ce pardon est sans efficacité. Il est offert, mais il doit être pris, cru et accepté dans son intégralité. N'est-ce pas ce que Christ a fait? N'est-ce pas ce qu'il a offert, justement? Faut-il encore y croire et le saisir, sinon il n'y a aucune efficacité du pardon, même si Jésus l'a offert, parce qu'il ne l'oblige pas. On lit dans Galates la fierté de Paul qui dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me vanter, de me glorifier, d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. » Alors, il y a quelque chose sur lequel on peut se vanter, être fier. C'est ce que Christ a fait pour nous, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je suis prête, moi aussi, à suivre ce que Christ a vécu. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que certains aimaient que Paul a peut-être passé jusqu'à 6 ans de sa vie en prison et exercé son ministère à partir de la prison, outre tous ses voyages missionnaires, sa fierté. Galates chapitre 3, verset 13. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir sur une croix? Est-ce qu'il était obligatoire pour le Christ de mourir sur un poteau de bois comme ça? Bien, les Écritures nous disent que oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même un maudit pour nous, malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». La raison pourquoi le Seigneur a vu bon, le Père Céleste, que son Fils vive ce supplice, que les Juifs religieux ont désiré que Jésus vive ce supplice, c'est parce que c'était la mort des maudits, ceux qu'on voulait humilier le plus dans leur mort. La mort la plus humiliante, où ce qu'on manque le plus de respect à quelqu'un, c'était pour un Juif, selon la loi, de le mettre sur une croix et de le laisser là. C'était la mort des maudits. Quand on dit que Jésus a été maudit pour nous, si on saisit l'Ancien Testament, on comprend que ce n'était pas la lapidation, ce n'était pas les autres moyens qui étaient la meilleure manière de l'humilier. C'était ce moyen-là. Et c'est pourquoi le Seigneur a vu bon qu'il meure la plus grande des manières honteuses et humiliantes pour nous. Et vous savez, dans d'autres cultures, on avait l'habitude de laisser même le corps longtemps sur cette croix, pourrir, peut-être manger par les rapaces. C'était une manière, mais chez les Juifs, on devait l'enlever et le mettre en terre le soir même, ne pas le laisser là. Et c'est cette malédiction que Jésus a portée, le pire des manières dont un humain pouvait être tué, non seulement en supplice, mais en honte. En honte. Pas pour ses péchés, pour les miens, pour les vôtres. Jésus a pris la mort la plus humiliante, culturellement de l'époque, selon la coutume juive, la plus souffrante de l'époque, selon la coutume romaine, dont la malédiction de la loi réservée aux coupables met à notre place. Hébreux, justement, cette seule autre référence en dehors des épîtres connues de Paul, on ne sait pas qui est l'auteur du livre aux Hébreux, dit ceci, « Ayant les regards sur Jésus, le chef consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était conservée a souffert à la croix. » En vue de la... Oui, on regarde les yeux sur lui, mais en vue d'une joie ultime. « Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père, du trône de Dieu. » Donc, c'est-à-dire qu'il a été accueilli par le Père, là où il était auparavant, à la droite du trône, accueilli par approbation par son Père pour dire oui. Quand il dit « Tout est accompli, effectivement, et moi comme Père, je viens, je t'accueille et je confirme que tout est accompli, que tu retrouves ta place et que tu es qui tu es, que tu es qui tu as affirmé être et que ce sacrifice-là, il est efficace et c'est comme un sceau d'approbation, le fait qu'il soit à côté du Père céleste qui dit « Approuvé, payé, au complet, il n'y a rien à ajouter, c'est fait. » Assis à côté du Père, c'est l'ultime acceptation que tout cela était vrai. J'aimerais vous lire ce texte. Vous pouvez aller avec moi, si vous avez votre Bible, dans Jean chapitre 20, les versets 2 à 8. Un récit que vous connaissez bien, et pourtant, combien il est bon de le lire ensemble. Elle courut, en parlant de Marie, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, qu'on comprend comme étant Jean lui-même. Et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et il vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur sa tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier, au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Il vit et il a cru. Ici, il y a un lien direct entre le fait de voir et de croire. Et l'auteur, qui est Jean, choisit trois différents mots pour nous parler du type de voir qu'on retrouve ici. Trois mots différents dans le texte original pour décrire comment il a regardé ces évidences, Jean et Pierre. Trois fois dans ces versets, on dit « il vit ». Pourtant, trois mots différents, trois verbes différents. Le premier, celui qui est le plus commun, parle tout simplement de regarder quelque chose comme je vous regarde. Je vous ai vu. Très banal. Un regard, un premier regard. Le deuxième, au verset 6, parle d'un regard, mais avec une contemplation, de prendre ou d'examiner, être un spectateur, un observateur. Je regarde avec beaucoup plus d'attention. Contempler, de remarquer des détails dans ce spectacle que je contemple. Pas juste un petit regard, j'ai vu. Non, non. Un regard beaucoup plus approfondi d'examiner qu'on utilise ici. Et au verset 12, on dit que Marie aussi voit les deux anges. Elle fait la même chose. Elle va examiner. C'est pas juste elle l'a vu. Ah non, elle examine ces deux anges qui vont se présenter à elle au verset 12. Et il y a un troisième regard. Alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra et il vit. Et là, ici, c'est un mot différent, un autre verbe, très commun aussi. Mais celui-ci parle d'avoir une image mentale, de saisir ou de réaliser ce qui vient d'arriver. C'est un regard plus engageant d'une constatation et de son impact sur moi. Trois différentes manières de parler, de voir les évidences ici de la résurrection de Jésus. Trois angles différents, d'une certaine façon, qu'il utilise. Et chose intéressante, ce deuxième, ou non, le dernier, est utilisé justement quelques versets plus tard pour Thomas, que vous connaissez bien, au verset 27 et 29, où ce qu'on dit, Thomas, mets ton doigt ici et vois, examine. Et fais une image mentale et saisis, réalise, là, en voyant ce que tu vois ici. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais là, heureux ceux qui n'ayant pas vu et ayant cru. Oh! Ça, c'était pas pour Thomas. Ça, c'est pour vous et moi qui lisons près de 2000 ans plus tard. Heureux. Beaucoup de bonheur, de satisfaction à celui qui va voir aujourd'hui et qui va croire, mais sans avoir vu, comme Thomas a vu. Vous saisissez ici la différence? T'es content, là, puis t'as cru, là, parce que là, tout a pu mettre ta main. Mais ils seront encore plus bénis, ceux qui vont suivre, qui, sans avoir vu ce que toi t'as vu, mais qui auront vu le témoignage écrit et gardé et préservé dans des multitudes de langues à travers le monde entier pour entendre et lire le récit de la résurrection de Jésus-Christ et qui croiront, ils seront heureux. Vous êtes heureux aujourd'hui. Vous qui avez vu et cru sans avoir vu comme Thomas. Beaucoup de bonheur pour vous qui croyez. Mais ça passe par aussi voir. Et quel regard avez-vous ce matin sur la résurrection de Jésus-Christ? Quel regard avez-vous? Un homme du nom de Frank Morris, un philosophe sceptique qui vivait il y a 60 ou 80 ans, particulièrement envers le christianisme, était un Anglais bien éduqué, une grande érudition, un avocat professionnel. Il avait été influencé par les critiques allemandes de l'époque des années 40, un professeur d'Oxford également, et de grands hommes de science de son époque qui amenaient à mettre en doute tout ce qui était miraculeux dans les Écritures. Le miracle était mis en doute continuellement. Dans son effort pour réfuter la croyance chrétienne historique de Jésus, comme étant miraculeuse et que la résurrection des morts est arrivée pour de vrai. Il commença à écrire un livre, et voici le nom du livre, « Who moved the stone? » »« Qui a déplacé la pierre? » C'était le titre de son livre. Mais finalement, dans sa préface, il écrivit son cheminement, expliquant essentiellement comment, finalement, en cours de rédaction, il en était venu à défendre dans son livre la résurrection corporelle de Christ. Son cheminement de vouloir écrire un livre contre la résurrection et les devoirs que ça l'a amené à examiner, à regarder de différents angles, d'examiner, de réaliser ce qui était écrit. Et les témoignages l'ont amené finalement à croire. Vous voyez? Il vit et il crut, Jean, lorsqu'il l'a vu. Il vit et il crut. D'une façon ou d'une autre, la perspective de cet homme a changé. Non pas soudainement, il dit, mais comme dans un éclair d'inspiration, que tout à coup, boum, il y a eu un changement. Non, ce n'est pas arrivé de même. Mais lentement, presque imperceptiblement, par l'entêtement même des faits eux-mêmes, les faits étaient entêtés, indéniables, et il a plié les genoux. Et n'est-ce pas ce que Jean nous invite à faire? Et c'est avec ce verset-là que je termine ce matin. Jean écrit la raison pourquoi il a écrit son évangile. Et si vous êtes un lecteur régulier des Écritures, vous connaissez déjà ce passage, mais j'aimerais vous lire, que vous soyez familier ou pas. Jean, chapitre 20, écrit le but. Il dit, « Jésus accomplit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez, que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, et que, en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. » Donc, l'importance ici de réaliser qu'il est le Messie qu'on attendait, qu'il est effectivement le Dieu incarné en homme, le Fils de Dieu, et que si tu y crois, la vie éternelle t'est promise. Il dit, toutes les histoires, j'aurais pu en prendre plusieurs autres. Il dit, on n'aurait pas assez de livres pour écrire toutes les histoires de Jésus. Pourquoi il a sélectionné ces quelques histoires dans l'Évangile selon Jean? Il dit, c'est parce que ces histoires-là, chacune d'elles, nous pointent à voir et à croire. Croire, bien, c'est d'avoir un regard de foi. Voilà ce que c'est croire. Un regard qui finalement croit et cède. Et plie le genou. Ses deux disciples, en regardant sincèrement ces trois regards, mirent tous les morceaux du casse-tête ensemble par ce regard, comme Morrison. Et il y a eu un déclic dans leur pensée. Leur analyse les a amenés à voir et à croire. La résurrection de Jésus nous invite ce matin à ce triple regard attentif, un regard attentionné pour réfléchir à ce miracle, afin de produire en nous la foi authentique, une foi authentifiant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus nous invite à croire en lui, à l'exemple de Jean, son disciple. Prendras-tu ce matin cette décision? J'aimerais inviter la chorale à s'approcher, à prendre place, puisqu'on va continuer à louer le Seigneur et célébrer sa résurrection ce matin. Mais j'aimerais prendre un instant avec vous pendant qu'ils prennent place pour prier. Et je ne sais pas où vous vous trouvez ce matin, que vous soyez en ligne avec nous de l'autre continent, de l'Afrique, que vous soyez en ligne avec nous des États-Unis, à Montréal, un peu partout, que vous soyez ici à Trois-Rivières, dans la région, en région, en différé. J'aimerais vous inviter à un instant d'arrêt, un instant pour réfléchir. Ce qu'on vient de lire, ce n'est pas juste une autre histoire, c'est une invitation de Jésus. C'est une invitation de l'apôtre Jean, qui a écrit l'Évangile selon Jean, qui nous invite à voir et à croire ce matin. Est-ce que tu as vu les évidences de Christ? Est-ce que tu les as vues et tu les as analysées de tous les coutures? Et est-ce que tu as pris cette décision ce matin, déjà, de donner ta vie? Peut-être as-tu déjà donné ta vie et t'es-tu refroidi? Peut-être as-tu déjà donné ta vie et tu as perdu ta ferveur. Et le Seigneur t'invite ce matin à regarder encore une fois les évidences et à venir à lui. Peut-être ce matin tu es ici et ça fait longtemps que tu entends l'Évangile, et tu n'as jamais pris de décision encore? Est-ce que Pâques 2023 sera le jour de ta résurrection des morts, comme Jésus-Christ? Ou sera encore une journée de reporter la résurrection dans ma vie? Vous savez, personne d'entre nous ne peut être garant que tu seras là demain. Personne. N'ayez surtout pas la prétention de penser que vous serez en vie demain. Personne ne peut prétendre avoir cette certitude. Ce serait une erreur. Alors que nous avons le souffle ce matin de célébrer Dieu dans cette célébration, de dire le nom de Jésus, de dire « Prends la première place, prends toute la place, la donnerez-vous dans votre vie ce matin? » Ou continuerez-vous à reporter cette invitation? Ne faites pas cette erreur. Si le Seigneur est en train de pincer votre cœur ce matin, que ce soit dans la conversion d'une décision ou que ce soit dans la reconsécration, de dire « Seigneur, je t'ai tassé, reprends toute la place ce matin, encore une fois. » J'aimerais vous inviter à prendre cette décision, à ne pas reporter ce qui est essentiel. Ce n'est pas un luxe, c'est essentiel. Et si vous êtes ici ce matin en faisant un acte religieux, de grâce, passez de la religion à une relation avec Jésus. Laissez la religion de côté et les actes religieux de venir juste à Pâques, à l'Église. Jésus n'en a que faire d'actes religieux. Il veut ton cœur. Il veut que tu lui donnes toute la place dans ta vie, matin, midi et soir, la nuit dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton travail, partout. Que 2023, Pâques 2023, soit dans votre vie différent des autres Pâques si vous n'avez pas encore cédé votre vie. Et ce matin, si vous n'avez pas pris cette décision encore, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi en terminant. Et peut-être, est-ce que ça peut être l'expression de votre prise de conscience ce matin? Accompagnez-moi, s'il vous plaît, dans la prière. Courbons nos têtes pour ne pas être distraits. Prenons un instant avec Dieu dans le silence de nos cœurs. Parents, enfants, grands-parents, tout petit, fermons les yeux ensemble pour se centrer sur lui. Seigneur, c'est ton Fils Jésus ce matin que nous célébrons et c'est la grandeur du Créateur qui nous a envoyé Jésus que nous remercions également. Quelle bonté tu nous as fait en envoyant ton Fils parmi nous pécheurs, pour qu'il devienne notre frère et porte nos fautes. Seigneur, ce matin, peut-être quelqu'un a besoin de faire la prière suivante. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur et que c'est pour moi que tu es venu et que je reporte depuis si longtemps de te céder ma vie. Ce matin, je te demande pardon. Prends la place dans ma vie. Prends ma vie, elle est perdue sans toi de toute façon. Et fais-en ce que tu veux, comme on l'a prié pour ses enfants ce matin. S'il vous plaît, accepte-moi comme ton enfant. Adopte-moi comme ton fils, comme ta fille. Et fais de moi ce que tu veux. Parce que sans toi, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Peut-être êtes-vous ce matin éloigné et avez-vous besoin de prier le Seigneur pour vous rapprocher de lui. Et peut-être lui dire ceci, « Seigneur, je te demande pardon de t'avoir mis sur la deuxième chaise de ma vie. Peut-être même la troisième, la quatrième, la cinquième chaise. D'avoir professé ton nom à un moment donné et de l'avoir repoussé tranquillement, mais certainement très loin derrière dans mes priorités de vie. J'aimerais ce matin te demander ton aide pour que tu reprennes la place qui t'appartient. Je confesse mon péché et qu'il y a toutes d'autres sortes d'autres dieux, de priorités qui sont venus dans ma vie et qui t'ont tassé. Je ne suis pas heureux sans toi. Pardonne-moi ce matin. Je veux revenir à toi. J'ai besoin de ton aide. J'y arriverai pas tout seul, Seigneur. J'ai accumulé quelques sacs avec beaucoup de poubelles et j'ai besoin de ton aide pour les trier, pour les nettoyer, faire du ménage dans ma vie. J'y arriverai pas tout seul. Ce matin, aide-moi, s'il vous plaît. Je veux me rapprocher de toi. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, à l'église, notre église sœur de Shawinigan-Sud, il y a des baptêmes. Mon épouse et ma fille, une de mes filles est là ce matin pour justement participer à une amie qui est baptisée. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est l'expression ce matin à Pâques de prendre une décision, de dire « Je me suis converti, mais ça fait longtemps que je reporte de m'engager dans les eaux du baptême. » Pourquoi pas décider à Pâques 2023, c'est fini de reporter, de faire connaître ma repentance publique. Je vais me faire baptiser, témoigner de Christ publiquement dans ma vie. Et peut-être est-ce votre décision ce matin que vous devez prendre pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que c'est, j'aimerais vous inviter ce matin à faire connaître votre décision à quelqu'un autour de vous, à un pasteur, à un membre de votre groupe maison, à la famille qui est là, mais ne gardez pas pour vous une décision que vous avez prise ce matin. Faites-le savoir publiquement. Rendez-vous redevable si cette décision, elle est réelle, elle est vraie, mais ne la gardez pas pour vous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans cette célébration de Pâques et merci à la chorale qui va continuer à nous diriger dans la louange.